On a eu le vent qui souffle sur la Volga à l'instant. Vous avez raté ça, Antoine Mercier. Il faut réécouter. Ça se podcast, hein, vous savez, la grande
politique, c'était pas la tasse de vodka.
C'était pas la tasse de vodka, Dimitri Bortnikov, qui, à mon avis, a beaucoup trop à dire. C'est pour ça qu'il s'est arrêté là. Pour laisser place au journal de Antoine Mercier. Il est midi et demi sur France Culture. Bonjour Antoine.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Pas de demi-mesure pour Theresa May. La première ministre britannique doit annoncer ce midi une rupture claire et nette avec l'Union européenne. Correspondance d'Antoine Gignot, analyse d'Annabelle Grelier. Pendant ce temps, à Strasbourg se déroule l'élection pour le nouveau président du Parlement européen. Après le premier tour, le représentant de la droite, Antonio Tajani, est en tête face au socialiste, qui est également italien, Gianni Pittella. On retrouvera à Strasbourg Ania Vogel. Un rapport d'Amnesty International sur les mesures antiterroristes et leurs conséquences sur la démocratie en Europe. Les politiques instaurées en Europe depuis les attentats de 2015, écrit Amnesty, ont conduit à une régression continue des droits, compte rendu d'Ilan Malka. En Turquie, un suspect arrêté par la police turque a avoué être ce matin l'auteur de l'attentat du Nouvel An à Istanbul qui avait fait 39 morts. C'est un Ouzbek qui a reçu un entraînement en Afghanistan. Précision d'Alexandre Billette, l'invité de la séquence interview, Arnaud Montebourg, candidat à la primaire de la Belle Alliance Populaire. Dans la dernière partie de la Grande Table, Olivia Jesbert.
Chacun son avocat. Le nôtre s'appelle Erwan Lemoredec. Il est également blogueur et essayiste. Il publie Identitaire, le mauvais génie du christianisme aux éditions du Cerf. On va revenir sur cette tentation identitaire chez les catholiques de France et les dérives possibles, selon lui. Avec vous, Antoine Mercier, à partir de 12h55.
Theresa May est donc sur le point d'annoncer une rupture claire et nette avec l'Union européenne, discours qu'elle doit prononcer dans quelques minutes à Londres, et Madame May évoquerait donc un prochain retrait du marché unique, mais aussi de la Cour européenne de justice, et de manière peut-être moins explicite, de l'Union douanière européenne, tout cela dans le but de reprendre le contrôle de l'immigration. Elle affirme vouloir en tout cas un nouveau partenariat équitable, dit-elle, pas un statut de membre partiel ou associé à l'Union, qui nous laisserait, dit-elle, à moitié dedans ou à moitié dehors. La nouvelle Grande-Bretagne libre de Theresa, titrait le quotidien anti-européen Daily Mail ce matin, pour qui les Britanniques récupèrent maintenant le contrôle de leurs frontières, se libèrent, je cite toujours le journal, du joug des juges de l'Union européenne. On est en ligne avec Antoine Gignot. Bonjour.
Bonjour.
Madame May donc va révéler dans quelques minutes les détails de sa feuille de route pour un Brexit qui s'annonce clair et net.
Absolument, ni à moitié dedans, ni à moitié dehors. Un vrai discours de rupture avec en toile de fond l'immigration, la souveraineté nationale. Theresa May cible avant tout les électeurs qui ont voté pour le Brexit. Les lecteurs, vous en parliez du Daily Mail, elle parle sans ambiguïté d'un Royaume-Uni indépendant, maître de ses frontières, tout en précisant que les expatriés britanniques ne seront pas oubliés et que les droits des travailleurs seront conservés. C'est un aspect très important de ce discours. Le parti conservateur veut avant tout se présenter comme un parti proche de la population, un parti social. La première ministre l'a dit plusieurs fois cet automne, elle veut construire a country that works for everyone, un pays qui fonctionne pour tout le monde. Mais elle tend aussi la main au milieu financier, au patronat, à l'Europe. Nous voulons acheter vos marchandises, vous vendre les nôtres et négocier avec vous le plus librement possible. Reste à savoir dans quel cadre. Certains secteurs comme l'automobile pourraient bénéficier de régimes particuliers, explique le gouvernement. Insuffisant tout de même pour l'instant pour rassurer les investisseurs. La livre sterling s'échange depuis hier à l'un de ses taux les plus bas depuis 30 ans par rapport au dollar.
Antoine Gignot, en direct de Londres, merci beaucoup. On vous laisse donc aller écouter Theresa May dans quelques minutes. Annabelle Grelier, bonjour.
Bonjour Antoine.
Alors, retrait du marché unique notamment, c'est l'une des principales annonces. Qu'est-ce que cela signifie pour la Grande-Bretagne et peut-être aussi pour l'Europe?
Alors, si Theresa May confirme une sortie du marché unique, dite dure, elle confirme donc la sortie de l'union douanière avec l'Union européenne. Ce qui veut dire pour la Grande-Bretagne qu'elle devra renégocier tous les échanges commerciaux avec le bloc européen. Une idée défendue effectivement par les pro-Brexit comme Boris Johnson, le ministre des Affaires étrangères, et Liam Fox, le secrétaire d'État au commerce international. Sortir de l'union douanière permet aux produits britanniques d'entrer en franchise de droits de douane dans l'Union européenne, ce qui la laisse libre de renégocier en accord bilatéral des accords de libre-échange avec les pays tiers, par exemple le TAFTA, que l'Europe ne veut pas pour le moment signer avec les États-Unis, les Anglais, et Trump l'a suggéré hier, pourraient désormais se lancer seuls. Un Brexit dur signifie que l'on ne cherche pas une voie particulière d'échange avec l'Union européenne, comme l'a fait la Norvège, la Suisse ou encore la Turquie. Et faute d'accord, c'est donc le régime de l'OMC qui s'applique, à savoir pas d'accès au marché unique et mise en place de barrières douanières selon l'application de la clause de la nation la plus favorisée. Et Londres perdrait aussi le bénéfice des accords de libre-échange avec les pays tiers négociés sous l'égide de l'Union européenne. Londres pourrait toutefois tenter de négocier des accords douaniers sectoriels avec l'Union européenne pour l'industrie automobile, on vient d'en parler, mais aussi l'industrie pharmaceutique et aéronautique où l'intérêt de nombreux pays européens sont très liés avec le Royaume-Uni, sans oublier évidemment l'épineux dossier de la finance. Londres, à ce jour, reste la plateforme financière de l'Europe. Michel Barnier, qui est le négociateur en chef de l'Union sur le Brexit, aurait déjà esquissé un possible accord spécial avec le secteur financier britannique. Rappelons enfin, Antoine, l'article 50 porte uniquement sur le divorce entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Leurs relations futures, notamment commerciales, mais aussi en matière judiciaire, devront donc faire l'objet d'autres négociations et pourraient prendre de longues années. D'où l'idée d'un accord de transition qui permettrait d'éviter une sortie trop abrupte du giron européen, en particulier pour les entreprises, en attendant l'accord définitif. Car n'oublions pas que le divorce risque d'être douloureux pour tout le monde.
Annabelle Grolier, merci beaucoup. On salue notre invité, Arnaud Montebourg. Bonjour.
Bonjour.
Le Brexit, donc, pour qui est-ce grave d'abord, les Britanniques ou les Européens?
Je crois que c'est pour la cohésion européenne, c'est évidemment un très mauvais signal, puisque finalement ça permet au président américain nouvellement élu Donald Trump de dire qu'il y aura d'autres sorties et finalement de souhaiter presque l'implosion de l'Union européenne avec son nouvel allié russe.
Je pensais qu'il le souhaite.
Il l'a exprimé. D'ailleurs, sa manière de retirer ou de donner le sentiment qu'il veut mettre fin à l'OTAN, c'est une manière de donner un feu vert à la politique que l'OTAN mène aux confins de l'Est de l'Union européenne vis-à-vis de la Russie. Donc il y a là comme une sorte de redistribution de toutes les cartes et le choix du Brexit est évidemment l'occasion pour nous de dire ce que nous voulons ou ne voulons pas. Nous ne voulons pas d'un énorme paradis fiscal aux frontières de l'Union européenne. Nous avions déjà les îles anglo-normandes qui posaient beaucoup de problèmes.
Ça, c'est la menace de Londres.
C'est la menace de Londres. Ils veulent faire un paradis fiscal pour capturer de la valeur.
Donc, il faut leur donner quand même quelque chose en échange
Non, il faudra se préparer à organiser la protection de nos intérêts économiques et financiers contre un paradis fiscal. Je rappelle que l'Union européenne a pour objectif d'unifier les niveaux d'imposition, certainement pas d'encourager la concurrence fiscale déloyale. C'est pourquoi, par exemple, je reprends dans mon projet la proposition de Gabriel Zucman, qui est un économiste de l'équipe Piketty, que j'ai d'ailleurs croisé à Princeton il y a 2 ans, qui propose des droits de douane électroniques sur toutes les transactions en provenance des paradis fiscaux, parce que les algorithmes permettent maintenant, dans le trading financier, de disposer d'une traçabilité des transactions, et donc d'organiser en quelque sorte la protection de nos intérêts. Donc des droits de douane électroniques sur le paradis fiscal qui voudra poursuivre sa politique ou s'installer à nos portes.
Michel Sapin disait ce matin que toutes ces critiques de Trump, notamment, ça allait resserrer les liens des Européens. C'est votre avis, notamment avec les Allemands ?
La question, c'est comment on rend l'Europe populaire pour que d'autres Brexit n'arrivent pas. Ce n'est pas tellement le fait qu'on utilise les attaques extérieures pour ne rien changer dans l'Union européenne. Donc ma stratégie et ma position, s'il m'est donné d'être le président des Français, est de dire les attaques viennent de l'extérieur, nous avons l'obligation de nous réformer, de nous transformer, si nous voulons avoir une chance de sauver l'Europe.
Arnaud Montebourg, merci, vous restez avec nous pour la suite de cette édition. On continue à rester en Europe puisqu'on va à Strasbourg où se déroule l'élection du président du Parlement européen. Bonjour Annie Vogel.
Bonjour.
Alors il y a deux principaux candidats, celui qui représente les socialistes et celui qui représente la droite, le PPE, et ils sont tous deux italiens. Ça devrait se jouer entre eux donc après le retrait du belge libéral fédéraliste Guy Verhofstadt. Pour l'heure, donc, il y a eu un seul tour qui s'est produit. C'est le conservateur Antonio Tajani qui est en tête avec 274 voix contre 183 au socialiste qui s'appelle Gianni Pittella. On attend le deuxième tour.
Oui, parce qu'il faut la majorité absolue des suffrages exprimés valides qui étaient en l'occurrence à 342, la moitié plus une. Et il en manque donc encore une bonne soixantaine à Antonio Tajani, qui est quasiment assuré néanmoins de l'emporter, donc dans ce duel italien. Après, vous le disiez, l'alliance de dverdière minute avec les libéraux, Guy Verhofstadt, s'étant retiré. Mais si la victoire du conservateur semble inévitable, ce ne sera peut-être pas un triomphe aussi facile, puisque les six candidats se maintiennent pour le deuxième tour. D'autres avaient même encore la possibilité de se faire connaître. Or, pour le second comme pour le troisième tour, la majorité absolue reste la règle. Elle ne change qu'au quatrième tour, qui lui se disputerait entre les deux premiers. À noter que c'est une femme sourd-muette qui arrive à la troisième place, la nationale populiste flamande Helga Stevens, suivie des Verts, de la gauche unitaire européenne et des europhobes.
Anya Vogel en direct donc du Parlement de Strasbourg. On vous laisse également regagner votre place pour suivre le deuxième tour de ce vote pour le président du Parlement. Le bilan du naufrage de samedi au large des côtes libyennes s'élève désormais à 4 morts, mais près de 180 disparus donc depuis samedi. Peu de chances de les retrouver. Bilan établi à partir des témoignages des 4 rescapés, 2 Érythréens, 2 Éthiopiens recueillis donc à leur arrivée lundi soir dans le port de Trapani dans l'ouest de la Sicile, qui ont expliqué être partis vendredi de Libye avec plus de 180 personnes, donc toutes originaires de la Corne de l'Afrique, à bord d'une barque en bois à 2 étages. Au bout de 5 heures de navigation, c'est le moteur qui s'est cassé, l'embarcation qui a commencé à prendre l'eau, à couler. Les migrants ont peu à peu été emportés, donc. Et après de longues heures dans l'eau, les survivants, ces 4 survivants, ont été secourus à 30 000 nautiques des côtes libyennes par un navire français qui était engagé dans l'opération Triton de l'agence européenne. Pierre après pierre, l'édifice de la protection des droits fondamentaux qui ont été construits avec tant de soin après la Seconde Guerre mondiale se fait démanteler au nom de la lutte contre le terrorisme. C'est un diagnostic très sévère qui est porté ce matin par l'organisation Amnesty International, pour qui donc les politiques qui ont été instaurées en Europe depuis les années 2015 ont conduit à une régression continue des droits au nom de cette lutte antiterroriste. Ilan Malka.
Oui, en Europe, selon Amnesty, la France est considérée comme un pays leader en matière d'état d'urgence. De nombreux états comme la Hongrie, le Luxembourg, la Bulgarie, la Pologne, entre autres, s'inspirent de nos législations. Les pouvoirs de l'exécutif, ils sont donc renforcés en cas de menace avec des contrôles judiciaires restreints. Le rapport pointe aussi un vrai flou juridique dans les lois de tous ces pays. Que signifient précisément les mots menace, urgence, apologie du terrorisme? Ce n'est jamais très clairement défini et ce flou est bien sûr propice à des dérapages. Amnesty prend un exemple, le cas d'Ahmed, un Syrien qui a été condamné à 10 ans de prison en Hongrie pour acte de terreur. Qu'avait-il fait? Il avait jeté quelques pierres lors d'affrontements entre la police et un groupe de migrants, un cas qui paraît quand même assez éloigné a priori du terrorisme. Les mesures de détention provisoire en Europe sont également évoquées dans ce rapport. Par exemple, en Pologne, on peut garder une personne soupçonnée de crime terroriste 14 jours en prison sans l'avoir inculpé. L'organisation alerte aussi sur la pratique qui consiste à renvoyer dans leur pays des gens qui peuvent y subir des traitements inhumains. L'Irlande, l'Espagne ou le Royaume-Uni peuvent avoir recours parfois à ce type de décision, selon le rapport. Il y a cependant des pays qui ne sont pas évoqués par Amnesty, ce sont les pays scandinaves qui peuvent donc être considérés comme les bons élèves en matière de liberté publique face aux risques terroristes.
Ilan Malka, pendant ce temps à Davos, éloge de la mondialisation par le président de la Chine communiste, le président chinois Xi Jinping, qui déclare qu'il faut équilibrer la mondialisation et la rendre plus forte, plus inclusive, plus durable. Ça ne sert à rien, dit-il, de blâmer la mondialisation pour les problèmes de la planète. Discours donc d'ouverture de ce forum économique mondial. Il cite le chômage, les migrations, la crise financière. Toute tentative de stopper les échanges de capitaux, technologies et produits entre pays est impossible et à rebours de l'histoire. Il faut donc réécrire le petit livre rouge dans son entier. En Turquie, un suspect arrêté par la police turque a avoué ce matin être l'auteur de l'attentat du Nouvel An à Istanbul, qui avait été revendiqué par le groupe État islamique. Son arrestation met fin à une vaste chasse à l'homme qui avait été lancée donc juste après cette attaque perpétrée dans la boîte de nuit Rena à Istanbul. 39 morts, en majorité des touristes qui étaient venus des pays arabes. L'auteur est ouzbek donc et il a reçu un entraînement en Afghanistan. C'est ce qu'affirme ce matin le gouverneur d'Istanbul. 12h43, on passe à la politique française. Avec deux déclarations prises ce matin au hasard dans les dépêches d'agence, au hasard pas tout à fait. Jean-Pierre Raffarin, soutien de François Fillon pour la présidentielle, souligne des points de convergence avec Emmanuel Macron. Et puis l'un des candidats aussi à la primaire à gauche, Jean-Luc Benamias, déclare qu'il pourrait, dans l'absolu, voter pour Emmanuel Macron au Parti Socialiste. Le nombre de personnes qui seraient tentées par un ralliement avant même d'attendre le résultat de cette primaire serait en augmentation forte. Frédéric Seiss, bonjour.
Bonjour.
Alors, qu'est-ce qui se passe avec ce phénomène Macron ?
Eh bien, c'est une coalition hétéroclite de ralliement qui rassemble des convaincus, des déçus et des revenants, des anciens ministres de droite, par exemple, comme Renaud Dutreil, quelques centristes. centristes, mais c'est surtout à gauche qu'Emmanuel Macron draine des soutiens. Alors pour l'instant, personne au gouvernement n'a franchi le pas, même si Jean-Marc Ayrault, Ségolène Royal et dans une moindre mesure Stéphane Le Foll laissent deviner leur intérêt. Mais plus on descend les strates du Parti Socialiste, plus les conversions sont nombreuses. On compte une dizaine de députés PS et radicaux qui ont annoncé d'ores et déjà leur ralliement, dont Christophe Castaner, ancien tête de liste PS au régional de 2015, ou Arnaud Leroy, député des Français de l'étranger, qui vous a soutenu pendant un temps, Arnaud Montebourg, il y a quelques années. Et puis, moins médiatique, il y a ensuite des cadres intermédiaires ou locaux qui franchissent le pas. C'est encore le cas ce matin d'un vice-président du conseil départemental du Nord, du maire du Mans, du maire de Rodez, du maire de Nevers également. Le point commun de la plupart de ces soutiens intermédiaires, c'est d'être en bisbille locale avec le Parti Socialiste. Tous critiquent sa déliquescence et comme à la bourse, ils achètent l'action qui est en hausse, l'action Macron. En Marche devient en quelque sorte un réceptacle à la déception idéologique et parfois au dépit personnel. Alors ces ralliements ne sont pas de franche rupture pour deux raisons. D'abord parce que le mouvement En Marche tolère la double casquette et donc en théorie, rien ne s'oppose à ce que ces élus soient candidats avec le logo des deux partis sur leur affiche. Ensuite, parce que le Parti Socialiste a pris le parti d'être plutôt coulant jusqu'ici en accordant l'investiture aux législatives, y compris à des candidats PS pro-Macron, une clémence qui va durer, dixit un cadre de Solverino ce matin, jusqu'à la fin de la primaire. Ensuite, il faudra, prévient-il, se décider. La dynamique est donc bien là, elle est incontestable, elle se couple avec le grand nombre de sympathisants qui garnissent les meetings. On peut en revanche se demander ce qu'ils viennent vraiment chercher dans un mouvement aux contours programmatiques encore flous. On peut aussi se demander dans quelle mesure ces ralliements aident le candidat Macron, lui qui s'est présenté en homme affranchi des appareils et qui recueille maintenant les soutiens d'élus façon politique à l'ancienne.
Frédéric Saïs, merci beaucoup. Arnaud Montebourg, est-ce que vous avez constaté, vous, ce phénomène aussi au sein de votre propre parti, des gens qui sont tentés d'arbitrer en faveur de Macron ?
Il y a une sorte de curiosité du phénomène Macron, puisque voilà un homme qui fait l'éloge au puits du fou de Philippe de Villiers, qui reçoit les amitiés publiques de Jean-Pierre Raffarin, qui va à Chanona, dans le Puy de Dôme, rappeler l'œuvre du président Valéry Giscard d'Estaing.
Donc vous classez à droite, c'est ça que vous voulez dire ?
Non, il va ensuite à Nevers mettre en valeur son amour immodéré du président François Mitterrand. Il a oublié juste que ce sont des gens qui se sont affrontés. Donc il va bien falloir que dans son programme, dont il ne dit rien, il explique ce qu'il veut faire du pays. Moi, je n'ai pas compris quelle était la nature de sa révolution. Est-ce qu'elle est donc conservatrice avec Jean-Pierre Raffarin, Valéry Giscard d'Estaing, Philippe de Villiers, ou est-ce qu'elle est progressiste avec ses élus socialistes qui, pour l'instant, vont chercher des investitures ou se recycler dans des phénomènes, peut-être, ils devraient faire attention, pour moi, éphémères.
Alors, s'il s'agit quand même de maintenir la présence d'un État fort et d'une puissance publique dans le paysage politique français, tout en tenant compte des évolutions, etc., de la révolution que nous connaissons aujourd'hui sur le plan technologique à laquelle on va s'adapter, est-ce que s'il s'agit de faire cette conciliation, vous êtes en phase avec lui ?
Écoutez, je ne sais pas si c'est ce qu'il et comment il fait cette conciliation. Moi, je considère que l'État, et c'est la cause, à mon avis, de l'échec du quinquennat, a été très faible avec les puissants et très dur avec les faibles. C'est ce que j'appelle le laisser-faire. Et le laisser-faire, Emmanuel Macron l'incarne parfaitement. On laisse faire Uber, on laisse faire Technip qui déménage, on laisse, finalement, on ne s'occupe pas des plans sociaux parce que c'est sale et que ça n'intéresse pas les gens. Bref, on abandonne une partie des Français qui, finalement, passent par wagons entiers au Front National. Donc, pour moi, la question, des questions très dures qui intéressent la vie quotidienne de nos compatriotes et qui sont, finalement, les questions de la société française dans tout son ensemble, c'est-à-dire, est-ce que l'État est encore fédérateur ? Est-ce qu'il permet de construire un commun ? Est-ce que nous le défendons ? Et est-ce que la politique sert à quelque chose, autre chose que d'être soumise aux féodalités économiques du monde ? Moi, ma position est de dire qu'il faut s'attaquer au mur des puissants. Ce soit les banques qui prétendent gouverner le pays, les médias qui sont concentrés, qui prétendent formater la pensée du pays, que ce soit les paradis fiscaux qui nous pompent notre valeur et notre richesse au détriment du pays et des contribuables du pays, ou encore ces sociétés numériques mondiales, toutes californiennes, qui ont fait de nous une colonie numérique des États-Unis d'Amérique. Donc nous avons à bâtir cette renaissance politique. Alors ce n'est pas en étant gentil avec tout le monde qu'on y arrivera.
Question de Ludovic Piétenu.
Arnaud Montebourg, vous parlez dans tous vos meetings du changement par le bas. Theresa May, la première ministre britannique, dirait le bottom-up. Au travers de deux, trois exemples, c'est quoi ce changement par le bas pour le domaine de la culture ?
C'est le fait que nous puissions reprendre en main nos choix collectifs. Ça, c'est le changement qui doit s'assumer par le haut. C'est ce que je viens de décrire. Il ne s'agit pas de se laisser fracasser sur le mur des puissances et des puissants.
Ça marche dans les deux sens.
Oui, d'accord. C'est celui-là qui a échoué, ce changement par le haut. Mais le changement par le bas, c'est le fait finalement que chacun peut reprendre les moyens de sa propre existence.
Vous dites réinventer la maîtrise de son destin.
Oui, c'est-à-dire finalement choisir sa vie. Par exemple, lorsque on tombe au chômage. Aujourd'hui, c'est une trappe à pauvreté, le chômage, tout le monde est très angoissé par cette perspective. Et ça touche toutes les couches de la société. Moi, ma position est de dire, nous allons construire un contrat de formation rémunéré, parce que la société doit, quand je dis construire, c'est-à-dire utiliser l'argent de la formation professionnelle et mettre en œuvre la sécurité sociale professionnelle. Nous avons l'argent pour le faire. J'ai budgétisé moi-même, dans mon cadrage macroéconomique, les montants pour le faire. Toute personne qui tombe au chômage doit se voir proposer la possibilité de refaire sa vie professionnelle. Refaire sa vie, c'est la choisir. C'est un exemple. Je défends, par exemple, aussi le télétravail.
Mais dans le domaine de la culture.
Ah, ben dans le domaine de la culture.
Comment ça marche? C'est quoi le changement?
Le domaine de la culture, c'est le fait, par exemple, que nous luttions contre les déserts culturels. C'est un point très important. J'ai fait la proposition d'une agence nationale de l'éducation artistique et culturelle qui permette d'unir les deux ministères, puisque nous avons des artistes qui parfois sur les territoires n'arrivent pas à vivre, malgré le régime des intermittents, dont il faut saluer qu'il est maintenu et qu'il faudra préserver. Et de l'autre, nous avons des activités périscolaires, des problèmes de rythme scolaire, une éducation nationale en difficulté. Est-ce que nous pourrions pas nous unir pour faire en sorte que l'accès à la culture soit une sorte de bien commun dans lequel chacun puisse choisir finalement ultérieurement ses préférences,
ça, c'est
ses orientations.
Ça, c'est du budget de l'État. Je vois pas où est le bottom up là.
C'est le fait que ce sont les acteurs des territoires qui vont s'en emparer. J'ai fait le choix. C'est un peu d'ailleurs l'inspiration du président Roosevelt dans la Grande Dépression, qui avait non seulement relancé l'économie et sorti son pays de la crise en 1932-33, mais il avait imaginé un programme qui s'appelait Federal One, et qui était finalement de considérer dans la Grande Dépression que pour lutter contre ce désespoir collectif, il fallait investir dans la culture. Et donc, il avait un programme où il s'est mis à subventionner des théâtres, vous imaginez, aux États-Unis d'Amérique. John Huston, Arthur Miller ont percé grâce à Federal One dans les années 30. Eh bien, c'est une des raisons pour lesquelles je souhaite réinvestir dans la culture, y mettre 1,5 milliard par an dans la création. Sur les territoires.
C'est ça. Dans
parce
votre
que c'est
25
la question...
milliards de dépenses nouvelles, vous mettez 2 milliards et demi de plus sur le mandat.
Non, 25 milliards
par an,
c'est 1,5 milliard.
500 millions d'euros par an.
Alors,
de plus.
L'argent, c'est important, mais ça ne suffit pas. C'est dans quel état d'esprit nous le faisons. Il s'agit en vérité de faire que les territoires, les gens, les collectivités locales qui ont coupé les dépenses culturelles à la suite de l'État dans la période d'austérité que nous avons connue de baisse des dépenses budgétaires, il s'agit de reconquérir des nouvelles frontières et de le laisser aux citoyens le faire eux-mêmes, aux professeurs, aux artistes, dans les établissements, avec l'aide des communes, des régions, des départements.
Et pour l'audiovisuel public ?
Ma position est de dire que le problème central aujourd'hui est d'abord la concentration des médias. C'est un énorme problème sur lequel les médias privés, sur lequel il faut agir d'urgence. On ne peut pas avoir 5 personnes qui tiennent tous les médias sous prétexte qu'ils sont tous en faillite, ils les rachètent comme des danseuses et décident de les utiliser pour construire une sorte d'influence sur les politiques publiques.
On a vu que dans le quinquennat, ça n'avait pas été fait. On a vu que, par exemple, il avait été question d'une loi qui interdisait...
C'est précisément pour ça que je vous propose de le faire. C'est précisément
les entreprises d'armement de détenir des médias, par exemple. À un moment, il y avait ces collusions qui voulaient être évitées.
Je suis bien placé pour savoir que les renoncements se sont succédés les uns aux autres. Si je suis candidat, d'ailleurs, Et si le président de la République a renoncé, c'est précisément parce que il y a beaucoup de choses devant lesquelles on a baissé les bras. Ce n'est pas ni ma vision, ni ma manière d'appréhender la transformation de la société que je porte dans cette campagne.
Une loi sur le privé et sur le public ?
Ben, le public, il va falloir, si vous me pouvez, si je peux me le permettre, améliorer la diversité et bâtir l'alternative. La France est un pays, en quelque sorte, qui est surinformé grâce à la percée du numérique dans la vie quotidienne, qui a besoin de trouver du sens. J'appelle sens, signification, mais aussi direction, c'est-à-dire où nous pouvons aller. Et le rôle du service public, c'est, si vous me permettez, c'est de remonter les moyens de réfléchir et de s'arracher à sa propre condition quotidienne, voilà, hein, comme disait Hannah Arendt, voilà, que j'aime beaucoup.
C'est le programme de France Culture. Culture. Voilà, ouais, bravo Antoine.
Encore une
vous
question
dites...
parce que c'est l'heure. Hein,
gardez Montebourg. France Culture.
Dernier, dernière question. Vous dites les déserts culturels, lutter contre les déserts culturels. Vous dites ils se sont accrus entre le moment où je parcourais les campagnes lors de la précédente primaire il y a 5 ans et aujourd'hui. Dans le programme de François Fillon, je lis aussi lutter contre les déserts culturels. Est-ce que ce n'est pas des vaines promesses, des vains mots, quand on parle de culture, quand t'es un homme politique?
Alors si vous considérez qu'il faut mettre la politique à la poubelle, ne m'invitez pas, parce que si les paroles peuvent ne pas suffire, il y a aussi des actes dans la vie.
Culturelles. Est-ce qu'on n'est pas dans les paroles un
monsieur,
peu creuses.
Excusez-moi de vous répondre, ça vous dérange, mais enfin, votre question, ça veut dire, bon, tout ce que vous racontez, ça ne vaut pas un caramel.
Non, dites-nous comment.
Ben, c'est ce que j'essaie de faire. Alors, je l'ai fait quand j'étais au Conseil Général de Saône-et-Loire, parce que je suis issu d'une province qui s'appelle la Bourgogne. Et tant que je ne suis pas allé à la capitale, comme on dit, quand j'ai fini mes études, j'étais étudiant en droit, et que j'ai pu découvrir ce qu'a été Beaubourg qui venait d'être créé. Hein, Beaubourg est né en 77. Je suis arrivé à Paris en 83. Je sortais de la faculté de Dijon. Je peux vous dire que ça a été un éblouissement. C'est là que j'ai fait mes apprentissages. La culture ouverte pour tous. Et je peux vous dire qu'à l'époque, mon père, avec sa 304, on allait à Paris rien qu'à Beaubourg quand j'étais encore un jeune adolescent. Je vous dis ça pourquoi ? Parce que le désert culturel, j'en viens. Et je sais ce que c'est. On n'a que la télévision et les livres. Alors maintenant, c'est Internet.
Donc comment on lutte contre les déserts culturels ?
Eh bien, je l'ai expliqué tout à l'heure. Ce que nous avons fait en Seine-et-Loire, on avait fait une saison culturelle. Nous avons des scènes nationales. Il s'agit d'aller vers la population. Les festivals qui se sont arrêtés doivent... Et nous en avons un à Chalon-sur-Saône qui est important, qui s'appelle les Chalons dans la rue. C'est les arts de la rue. Ouais. Ça a beaucoup d'importance, à la fois dans l'imaginaire des gens qui habitent, mais aussi dans l'économie locale. Je rappelle que plus de 3% de notre PIB est lié à l'économie de la culture. Nous avons un peuple de la culture qui travaille, qui réfléchit, qui produit, qui crée. Et les émergences artistiques partout en France justifient qu'on reconstruise ce dialogue entre le territoire et l'État. L'État doit être dans sa tradition politique mécène. Et il doit, et c'est l'esprit de Federal One, de ce qu'avait fait Roosevelt.
Et vous dites aussi un dialogue avec la société civile, les acteurs locaux.
Merci Arnaud Montebourg. Je crois qu'on vous avait bien défendu le dossier de la culture. On vous remercie beaucoup d'avoir accepté de venir dans ce studio, dans le journal de France Culture.
Un mot de la météo ?
Voilà. Alors un froid encore plus vif, on s'en est rendu compte. La Corse affronte par ailleurs un temps particulièrement instable. Il fera de 3 à 7 degrés sur la façade atlantique et le Languedoc-Roussillon. Autour de 8 à 9 quand même sur la Côte d'Azur. Ailleurs, d'ouest en est, entre 0 et moins 3 sur le nord-est et près des Alpes, de 1 à 3 degrés à l'ouest. La bise de nord-est accentue l'impression de froid. C'est presque un alexandrin, pas tout à fait. Fin de cette édition réalisée avec M. Léchili. Prochain journal, 18h avec Stanislas Vazak.